Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, si vous êtes familier des questions environnementales, ce que je vais vous dire va vous sembler évident. Le changement climatique rend les canicules, les sécheresses, les inondations, les ouragans plus fréquents et plus intenses. Sauf que ce lien entre ce qu'on appelle les événements climatiques extrêmes et le changement climatique n'est pas systématique. Il faut le vérifier scientifiquement pour pouvoir le prouver et distinguer ainsi ce qui relève du changement climatique du simple aléa météorologique. Et c'est là le rôle de la science d'attribution, notre sujet du jour. Alors, comment déterminer exactement si une tempête ou une sécheresse est bien due au changement climatique, oui ou non ? Pour le savoir, je reçois Mathieu Gohard, spécialiste environnement au Monde. Changement climatique ou météo, l'homme est-il responsable des événements extrêmes ? Un épisode de Garance Munoz, réalisation Thomas Zeng.
En 2003, quelques mois avant la grande canicule qui avait touché l'Europe, à la fin de l'hiver, il y a eu des grandes inondations sur l'Angleterre. Notamment, la Tamise avait débordé à Oxford, la grande ville universitaire, et beaucoup de maisons avaient été envahies par l'eau. Et Miles Allen, qui est un climatologue assez connu, s'était dit et avait écrit un article dans les jours suivants dans la revue Nature, en disant si tous ces gens touchés par les inondations pouvaient rendre responsable, pouvait déterminer qui est responsable de ces inondations, peut-être que l'action politique irait plus vite. Parce que lui savait très bien que les inondations étaient renforcées par le réchauffement climatique. Et il s'est posé cette question-là. L'article a eu beaucoup de retentissement.
Au moment où j'écris cet article, en janvier 2003, les eaux de la Tamise sont à environ 30 cm de la porte de ma cuisine et montent lentement. À la radio, un météorologue vient d'expliquer que, même si c'est le genre de phénomène que le réchauffement climatique pourrait rendre plus fréquent, il est impossible d'attribuer cet événement particulier aux émissions passées de gaz à effet de serre. La question est importante car elle touche à une question qui tient beaucoup plus à cœur à beaucoup d'entre nous que la durabilité mondiale ou la survie planétaire. Qui poursuivre en justice lorsque le prix de l'immobilier chute ?
Et après, il est passé, lui, à l'action de son côté, à l'action scientifique, en faisant, après la canicule du coup de 2003, quelques mois après, une étude d'attribution, grande étude dans une revue avec plusieurs de ses collègues, pour déterminer comment cette canicule avait été renforcée par le changement climatique. C'est un peu là qu'est née la science de l'attribution.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Guillaume.
Alors Mathieu, tu viens de nous raconter la naissance, finalement assez récente, hein, 2003, de la science d'attribution. Alors, au-delà de cet exemple, est-ce que tu peux nous en donner une définition précise ? En quoi elle consiste aujourd'hui ?
La science de l'attribution, alors c'est quelque chose qui peut interpeller le grand public parce que évidemment les événements extrêmes, ils sont pas nés avec le changement climatique. Ils peuplent les récits des chroniques du Moyen-Âge, des récits de l'Antiquité. Ça a toujours existé. Donc poser la question de est-ce que l'homme est responsable de certains événements extrêmes, c'est une question presque provocante. Mais les scientifiques, les climatologues se sont rendus compte qu'avec la quantité de CO2, de gaz à effet de serre qui est dégagée dans l'atmosphère, l'augmentation des températures, il y a toute une chaîne de conséquences qui renforce la probabilité des événements extrêmes, leur intensité aussi. C'est les mots qui sont employés dans les rapports du GIEC, augmentation de la probabilité et de l'intensité. Donc, la science des événements extrêmes essaye de voir à quel point l'homme a rendu plus probable, c'est-à-dire multiplie les événements extrêmes, notamment les canicules, par exemple, des canicules plus fortes qui se multiplient et les rend aussi plus intenses.
D'accord, mais alors concrètement, comment ça marche ? Quelles sont les techniques utilisées par les scientifiques pour prouver que tel événement est dû, oui ou non, à l'activité humaine ?
En fait, il y a deux grandes méthodes d'attribution. La méthode la plus classique, c'est la méthode dite statistique, c'est qui fait tourner des modèles informatiques en fait en comparant les climats. Pour commencer ces études, il faut déjà bien définir l'événement. Par exemple, prenons une canicule, il faut définir comment elle s'est passée, le nombre de jours qu'elle a duré, les températures qui ont été atteintes pendant cette canicule. Et après, on fait tourner deux modèles informatiques différents. Un, avec les conditions actuelles, c'est-à-dire notamment en faisant une variable importante qui est le taux de CO2 qui a été dégagé. Et enfin, un autre modèle, un modèle dit contrefactuel, en mettant un taux de CO2 qui n'aurait pas évolué. On simule le climat pré-industriel sans les activités humaines. Et dans ces deux modèles, on essaye de voir cette canicule, le nombre de fois où elle se répète dans le modèle avec du CO2, et combien de fois elle se répète dans un modèle sans CO2. Et on arrive à des grandes différences et des modèles très précis sur l'évolution des températures notamment. Par exemple, en 2020, en Sibérie, il y avait eu des températures très importantes, jusqu'à 38 degrés. Et les modèles climatiques avaient montré que, avec le dégagement de CO2, c'était rendu 600 fois plus probable. C'est-à-dire que ça revenait beaucoup plus souvent, c'était possible avec le CO2, alors que ça devient complètement improbable dans le modèle climatique sans CO2. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que c'est vraiment des modèles informatiques climatiques, mais qui sont vraiment très 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 précis sur les questions de température.
D'accord, donc si je te suis bien, ça ne permet pas de déterminer si cette canicule-là précisément est due, oui ou non, au changement climatique. Mais par contre, s'il y en a eu 5 sur les 10 dernières années, c'est hautement improbable s'il n'y avait pas eu d'augmentation des gaz à effet de serre.
Oui, ça ne prédit pas une canicule. Par contre, ces conditions caniculaires sont possibles dans ce climat-là et reviennent, par exemple, dans ce climat-là tous les 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Par contre, dans le climat, dans le modèle informatique sans CO2, ça ne revient pas, on ne voit pas ces conditions-là apparaître. Ça veut dire qu'elle est rendue plus probable, qu'elle se multiplie au fur et à mesure des années. Et ils vont même jusqu'à simuler des climats avec plus de degrés de réchauffement. Actuellement, on est à peu près à plus 1,2 degrés de réchauffement par rapport au 19e siècle. Et là, on voit que dans les 50-60 ans qui viennent, la probabilité augmente encore plus fortement, notamment sur les canicules.
Donc ça, c'est pour la première méthode, et tu nous disais qu'il y en avait une deuxième.
Il y a une deuxième méthode, qui est la méthode des analogues. C'est vraiment purement une méthode d'observation. C'est un autre collectif qui s'appelle le Climemeter qui s'occupe de ça. C'est de comparer deux périodes, en prenant les données satellitaires par exemple, la période entre 1979 où ont vraiment commencé les observations satellites et 2000, et la période 2000-2023-2024, et d'observer les situations atmosphériques qui ont entraîné des événements extrêmes. Par exemple, une inondation est évidemment dépendante de la pression atmosphérique, du vent, du taux d'humidité. Et ils observent à travers ces données satellites à quel point ces conditions étaient présentes dans la première période et étaient présentes dans la deuxième période. Et on voit qu'elles se renforcent très fortement dans la deuxième période pour la plupart des événements extrêmes. Et donc, ils font une comparaison entre les deux périodes en disant et en chiffrant à peu près à quel point ça s'est renforcé.
Et ces deux méthodes, elles sont fiables? Est-ce qu'il y en a une qui est plus fiable que l'autre, par exemple?
Elles sont fiables sur... Ça dépend des événements extrêmes. La première est vraiment très, très puissante et très précise sur tout ce qui est des évolutions de température, de sécheresse, et donc les événements qui sont liés à ces conditions-là, par exemple les feux de forêt. Les modèles climatiques sont vraiment très, très puissants sur ces événements extrêmes-là. La deuxième, qui compare des situations atmosphériques, est complémentaire, notamment sur tout ce qui est cyclone, inondation. Donc voilà, elles sont précises sur différents événements extrêmes. La plus courante, c'est évidemment celle des modèles informatiques, qui est utilisée dans beaucoup, beaucoup de collectifs scientifiques. Donc elles sont à la fois complémentaires, mais ça dépend des événements extrêmes qu'elles étudient.
Mathieu, tu nous le disais en introduction, la science d'attribution, elle a aussi été créée pour peser dans le débat public avec l'exemple de Miles Allen et cette canicule en 2003. Alors, comment est-ce que les scientifiques s'y prennent aujourd'hui? Comment est-ce qu'ils diffusent leurs résultats?
C'est vraiment un point crucial parce que c'est une science qui est à la frontière entre les études et le débat de société. Elle est vraiment née d'un ras-le-bol des climatologues, qui est un sentiment assez courant dans ce domaine de la science, on voit ce qui se passe et il y a un manque d'action politique, il y a un manque de débat dans la société derrière. Donc c'était vraiment lié le réchauffement climatique aux conséquences que subissent les sociétés. Et donc, un des grands objectifs de ces scientifiques, c'était d'aller vite. C'est d'ailleurs une des grandes critiques qu'ils ont dû subir aussi. Donc au début, elle prenait plusieurs mois, parce qu'une étude scientifique doit être revue par les pairs, comme on dit, avant d'être publiée. Elle fait plusieurs relectures, avec des critiques, des nuances à apporter. Ce qu'ils ont fait maintenant, les collectifs de scientifiques, notamment le principal d'entre eux, c'est le World Weather Attribution, c'est de faire valider leur méthode d'attribution par les scientifiques. Et ensuite, les études ne font pas le parcours classique, mais sont envoyées à la presse, au bout de 10-15 jours. Et donc, c'est de bien identifier des événements qui marquent les sociétés. Et évidemment, on peut penser à ce que subit le Bangladesh ou des pays comme ça, des grands cyclones ou des grandes inondations, les canicules qui touchent maintenant très fortement l'Europe, les pays occidentaux, l'Amérique du Nord. Et donc voilà, et c'est d'envoyer très vite à la presse, aux journalistes, aux autres scientifiques, une étude d'attribution dont la méthode a été validée, puis de continuer à travailler dessus pendant les mois suivants. C'est vraiment pour essayer de peser sur les débats de société.
Et est-ce que ça marche? Est-ce que cette démarche de rendre ça le plus grand public possible, de mettre ces études, tu nous le disais, donc très vite à disposition des médias et du grand public, est-ce que ça fonctionne? Ça a un écho au-delà des cercles scientifiques?
Oui, ça a un écho très fort. Nous, on s'en sert pour valider un peu des intuitions. C'est-à-dire que ça, quand on dit que une canicule, par exemple la canicule tardive de l'année dernière en France, après le 15 août, le grand public dit « mais voilà, certes, il fait 30-35 degrés, mais ça arrive à d'autres moments de l'été ». Les études d'attribution disent « oui, mais des canicules après le 15 août, c'est-à-dire on commence à sortir de l'été météorologique qui se termine le 31 août, et même début septembre, en fait, dans un climat pré-industriel, le fait que cette canicule-là arrive à cette date-là, c'est totalement improbable dans un climat sans CO2. »
Article du Monde, datant du 13 septembre 2024. 10 jours après une vague de chaleur historiquement forte et tardive subie du 17 au 24 août, la France a subi un deuxième épisode de chaleur exceptionnelle du 4 au 11 septembre. S'il comportait des étés chauds, voire des canicules historiques, le climat français ne souffrait de vagues de chaleur que de manière occasionnelle. Le réchauffement climatique sous l'effet des gaz à effet de serre a accéléré cette fréquence. Depuis 2010, la fréquence de ces épisodes extrêmes augmente et devient quasiment annuelle, voire pluriannuelle.
Ça vient valider des choses que nous disent Météo France, les climatologues, en apportant vraiment une étude scientifique rapide. Ça ne veut pas dire, et ce n'est pas pour ça qu'on s'intéresse à cette canicule, par contre, on peut la décrypter, on peut apporter dans un papier un paragraphe qui explique qu'en fait, c'est rendu 4 à 5 fois plus probable cette canicule. En Amazonie, il y a un mois et demi, il y a eu une sécheresse immense. Évidemment, ça a des conséquences sociétales sur la biodiversité. On s'y intéresse. Les scientifiques qui font des études d'attribution sont arrivés quelques jours après en disant « c'est rendu 30 fois plus probable l'importance de cette sécheresse à cause du réchauffement climatique ». Donc ça permet vraiment d'apporter des éléments d'analyse rapides et qui, peut-être aussi, peuvent faire prendre plus conscience au grand public des conséquences du réchauffement climatique.
Et par ailleurs, ce que ça permet également de faire, c'est de pointer d'éventuelles responsabilités. Et ça, dans le cadre actuel, que tu nous as déjà décrit d'ailleurs dans d'autres épisodes de la diplomatie climatique, ça a son importance. Est-ce que tu peux nous expliquer?
Oui, parce que il y a beaucoup de pays du Sud qui sont de pays en voie de développement ou en développement, qui subissent les événements extrêmes. En fait, c'est même la majorité des événements extrêmes ont lieu dans les pays du Sud. Notamment, on peut penser à l'Afrique avec des sécheresses très importantes et de plus en plus importantes. Et donc, ça compte dans la diplomatie climatique sur qui est responsable du réchauffement climatique. Ces études d'attribution peuvent apporter dans le débat de la diplomatie un élément de plus. D'ailleurs, elles ont été pensées aussi un petit peu comme ça, et elles servent. Il y a un an a été créé le Fonds Pertes et Dommages. Le Fonds Pertes et Dommages, c'est que les pays du Nord, les pays développés, doivent compenser certains dégâts qu'ont subis les pays du Sud. Des dégâts comme la montée du niveau des eaux, qui est très très préjudiciable pour des îles, des petites îles ou certains traits de côte, ou des dommages après des événements extrêmes, justement. Et c'est une grande peur de certains pays développés, par rapport à ce fonds pertes et dommages, par exemple les États-Unis qui redoutent qu'à un moment il y ait une responsabilité des pays développés à propos des événements extrêmes. Si à un moment le Bangladesh se retourne vers les États-Unis en disant là on a 5 milliards de dommages à cause de cette inondation et que les États-Unis et l'Europe sont responsables de 50 à 60% du dégagement de CO2, leur dette climatique, est-ce que ces pays-là un jour se retourneront vers les pays développés pour leur dire c'est votre faute? Et là, il peut y avoir des questions d'argent, il peut y avoir des questions de débats très très profonds. Donc ces études d'attribution rentrent dans ces débats-là aussi.
Et ça peut aussi aller sur le terrain judiciaire vis-à-vis des entreprises pétrolières par exemple.
Oui, ça fait partie. Il n'y a pas eu encore de grands procès avec une étude d'attribution au milieu, mais c'est des pièces qui sont apportées. Il y a beaucoup de procédures en cours déjà. Évidemment, à un moment, si un collectif de villages qui a perdu ses maisons, qui a perdu ses infrastructures, fait des actions collectives contre des grandes entreprises pétrolières, c'est des débats juridiques et diplomatiques qui peuvent marquer les prochaines décennies au cours du XXIe siècle et avec le renforcement du réchauffement climatique.
Ok Mathieu, j'aimerais maintenant peut-être qu'on pointe un petit peu tout de même les limites de ces études d'attribution. Toi qui les suis avec beaucoup d'assiduité, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'événements qui sont à coup sûr liés au changement climatique et d'autres pour lesquels c'est peut-être moins évident de le savoir?
Oui, ça va. Il y a plusieurs limites aux études d'attribution qui sont d'ailleurs intéressantes. Par exemple, les événements qui sont très complexes, où il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Alors, si on reste que sur les facteurs météorologiques et climatiques, mais par exemple, un feu de forêt est dépendant d'une sécheresse, de la sécheresse des sols, du vent, évidemment la température de l'air. Il y a énormément de facteurs qui commencent à rentrer dans les modèles climatiques. Donc, ça complexifie les études d'attribution. Sur les feux de forêt, ça reste relativement simple parce que c'est des choses liées au vent et à la température. Mais un cyclone ou un ouragan, là, on rentre dans des phénomènes très, très complexes sur l'humidité dégagée par la mer, sur des phénomènes atmosphériques ascendants, etc., sur des questions de hauteur de l'eau, quand la houle arrive sur les côtes, ça dépend de la marée, ça dépend de plein de choses. Donc, il y a de multiples variables qui rentrent dans l'étude d'attribution et ça les complexifie.
Et dans ces variables, j'imagine qu'il y en a certaines qui peuvent être dues au changement climatique et d'autres non. Donc, du coup, comment on fait ?
Oui, évidemment, la marée ne dépend pas du changement climatique. Donc, évidemment, ça, c'est séparé de l'étude d'attribution. Elle rentre pour calculer les impacts, mais on la sépare de l'attribution à l'homme. Après, il y a d'autres limites très fortes sur les études d'attribution. C'est une question de zone dans le monde. Il y a des zones qui sont très, très compliquées à analyser. L'Afrique, une partie du Moyen-Orient, une partie de l'Asie centrale, alors que c'est justement des zones qui sont très impactées par les événements extrêmes.
Pourquoi ?
Elles sont très compliquées à analyser parce que les études d'attribution dépendent de la qualité des observations qu'on fait, notamment pour définir d'abord l'événement extrême en lui-même. Il faut bien définir combien de temps a duré la canicule, combien de temps a duré la sécheresse, le niveau des températures. Et en fait, il y a des zones du monde où les observations sont moins fiables. Voilà, il y a moins de stations météo, elles sont parfois abîmées. Donc la qualité des observations est moins bonne. C'est le cas en Antarctique aussi, qui est une zone qui doit être très surveillée, où il y a entre 25 et 30 stations météo. Les satellites européens étudient moins bien aussi, ou les satellites américains étudient plus l'hémisphère nord qu'une partie de l'hémisphère sud. Donc voilà, l'événement est moins bien défini. Il y a des canicules qu'on rate, qui ne sont pas observées, qui ne sont pas recensées, ou des sécheresses qu'on rate, parce que les observations ne sont pas bonnes. Donc, les collectifs n'arrivent même pas à identifier l'événement à étudier, alors que c'est les zones les plus impactées par les événements extrêmes. C'est une des limites très fortes.
Et alors Mathieu, est-ce que les sciences de l'attribution incluent également des responsabilités humaines qui sont autres que simplement le changement climatique ? Je m'explique, par exemple, une inondation, elle peut être aggravée parce que les sols ont été artificialisés. Est-ce que ça, par exemple, c'est tenu en compte par les études d'attribution ?
C'est vraiment un point crucial. C'est d'ailleurs un point de débat qu'il y a, parce que les études d'attribution créent encore du débat au sein même de la communauté scientifique. Mais il y avait un grand débat sur dire ça simplifie les choses, ça attribue à l'homme les conséquences de l'événement extrême, alors que les conséquences sont dues à plein d'autres causes. Et c'est exactement ce que tu dis. Mais par exemple, les feux de forêt dépendent d'autres choses, dépendent aussi de si les sociétés humaines ont changé les espèces d'arbres. En fait, ça peut changer l'intensité du feu de forêt. Si les systèmes d'alerte ne sont pas bons, ça peut aggraver les conséquences d'inondations ou de feux de forêt. Donc c'est très important et peu à peu, les études d'attribution essayent d'intégrer des chercheurs en sciences sociales qui étudient vraiment la société humaine et comment les infrastructures des urbanistes aussi ont été faites autour. Donc elles simplifient les choses, mais elles essayent maintenant d'amener de plus en plus de nuances. Par exemple, sur la question des famines, c'est très intéressant aussi parce qu'une famine, évidemment, peut être provoquée par le réchauffement climatique, parce que la canicule, parce que la sécheresse, parce que tout ce dont on vient de se parler, mais elle est aussi aggravée parce que la guerre en Ukraine, pour des questions géopolitiques, pour des tensions au Proche-Orient, ailleurs, la famine d'un endroit du monde peut être aggravée par des tensions géopolitiques. Donc en fait, l'attribution à l'homme par rapport au réchauffement climatique est un pan de l'explication des conséquences des événements extrêmes. Mais il faut amplifier ça avec des études en sciences sociales, avec évidemment des gens qui sont spécialisés dans la géopolitique. Et donc il faut remettre l'événement extrême dans son contexte global à chaque fois.
Merci Mathieu.
Merci Jean-Guillaume.
« Pour continuer à suivre l'actualité liée au changement climatique, vous pouvez aller lire tous les articles de notre service Planète sur lemonde.fr ou écouter le podcast Chaleur humaine de mon collègue Nabil Wakim. Et pour soutenir le travail de toute notre rédaction, rendez-vous sur abopodcast.lemonde.fr pour y retrouver notre offre spéciale à destination des auditeurs et auditrices de L'Heure du Monde, un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.